Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy et Virginia Crespo.
Canal Académie vous entraîne au théâtre et à l'opéra sur les pas de Don Juan.
L'importance dramatique et littéraire du thème de Don Juan est exceptionnelle. Bien peu de personnages, imaginaires ou réels, ont tenté plus de 3000 auteurs, musiciens, peintres, et bien peu ont une bibliographie aussi volumineuse. En effet, depuis le XVIIe siècle, Tirso de Molina, Molière, Mozart, Byron, Pushkin, Monterland, Bertolt Brecht, Miloche, Suzanne Lillard et tellement d'autres ont été hantés par la figure de Don Juan. Qui est donc Don Juan ? Comment expliquer l'intérêt permanent qu'il a suscité à travers les siècles en Occident ?
Pour répondre à ces questions, Canal Académie vous propose 3 émissions différentes. Il n'en faut pas moins pour un seul homme quand il s'appelle Don Juan. Aujourd'hui, nous ouvrons la série sur le mythe de Don Juan et sur le théâtre de Molière et de Brecht. Fin février, il s'agira de Mozart et de son Don Giovanni. Pour la journée des femmes, en mars, Florence Delay, de l'Académie française, évoquera le Bourlador, ange du démon, de Suzanne Lillard, la première femme qui consacra une pièce de théâtre à notre séducteur impénitent. Florence Delay s'entretiendra aussi avec Christian Schiaretti, le metteur en scène du Don Juan de Tirso de Molina, sur les planches actuellement au TNP de Lyon.
Du père fondateur du mythe de Don Juan, passons quelques minutes en compagnie des personnages de la version théâtrale qu'en fit Molière dans une interprétation et mise en scène de Daniel Mesguich. À ses côtés, Anne Crescente dans le rôle de Donna Elvire et Christian Heck dans celui de Sganarelle.
De vous détacher de moi, que la mort, que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous vous demeuriez ici quelque temps et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes.
Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée ? Et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras. Que par...
Yves-Marie Berset, historien moderniste de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évoque, en compagnie d'Anne Jouffroy, la place du sacré dans l'aventure de Don Juan, avec l'apparition mystérieuse de la statue animée du commandeur.
Yves-Marie Berset, l'apparition de la statue animée et parlante du commandeur, c'est-à-dire ce commandeur défunt mais doué d'une sorte de vie, révèle la place du mythe du sacré ou du fantastique dans Don Juan. D'où vient ce mythe ?
Je crois que le choix dans le thème de Don Juan d'une statue animée, d'une statue de pierre, est peut-être caractéristique d'un imaginaire italien ou espagnol, où il y a une présence du passé sous la forme plus fréquente de monuments antiques. À quel moment apparaît ce thème ? Au sens strict, on dira que c'est avec Tirso de Molina,
le gouverneur
de Séville. C'est le début du XVIIe siècle. Non, je ne crois pas que ce soit lié à un
mouvement
chrétien spécifique.
Ce n'est pas une propagande religieuse.
Oh non, pas du tout. Non, non, ça ne correspond à aucun thème particulier, je dirais, dans l'orthodoxie. Ce qui est comparable, enfin, ce qui est reliable à un substrat religieux du XVIe siècle, c'est l'idée d'un châtiment qui vient d'outre-tombe, qui vient de la puissance des enfers. Et en ce sens, le mythe, le thème du Don Juan est comparable à celui du Docteur Faust, qui est contemporain, qui est du XVIe siècle. Et qu'on ne peut pas attribuer à un auteur particulier. Il y a peut-être eu un Docteur Faust en Allemagne dans les années 1540 et qui représente un personnage qui ne se satisfait pas de la brièveté de l'existence, où on ne peut pas connaître toute la science, et donc il va demander au diable, à la puissance d'au-delà de la mort, de lui donner ce pouvoir. Là, il y a un point commun entre Don Juan et Faust. Don Juan veut connaître toutes les femmes, il veut dépasser les bornes du comportement humain habituel, et de la même manière, il est entraîné aux enfers.
Oui, parce que Don Juan, c'est le désir sensuel, alors que Faust, c'est le désir de la connaissance.
De la connaissance,
c'est une forme de défi aussi.
Dans la postérité du thème de Faust, on retrouve aussi le désir de la jeunesse, les amours du docteur Faust qui va retrouver, bien sûr, son ardeur juvénile. Donc, finalement, je crois qu'il y a un télescopage, en fait, au moins une rencontre des deux modèles. Ce qu'il y a, en tout cas, de frappant, c'est que ce sont des thèmes qui sont diffus, qui sont anonymes, qui n'ont pas d'auteur spécifique et qui sont présents dans l'imaginaire occidental, on dira, dans les dernières décennies du XVIe siècle. Tirso de Molina s'en empare et il va, alors, certes, lui donner une force théâtrale d'avenir. Mais dans le domaine français qui nous intéresse plus particulièrement, et celui de la pièce de Molière, qui est de 1665, on s'aperçoit que le passage entre Tirso de Molina, dont le Burlador est publié en 1630, même s'il avait été composé peut-être auparavant, et puis 1665, l'unité, la continuité ne se fait pas de l'Espagne au domaine français. En fait, le passage se fait par l'Italie et par un auteur bien particulier qui s'appelle Giacinto Andrea Cicognini. C'est un Florentin, je crois qu'il est né en 1606 et il meurt en 1651. Alors, il a eu tout de suite une très grande réputation à Florence. Il était pensionné des grands-ducs. À la fin de sa vie, il s'installe à Venise, où il meurt effectivement en 1651. Sa période de grande activité, c'est les années 1640, et il compose un très grand nombre de pièces théâtrales qui sont inspirées de l'ensemble du théâtre du siècle d'or espagnol, de Tirso de Molina, mais aussi bien de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, qui est de la génération suivante. Et il les marie avec des artifices, les jeux particuliers de la comédie italienne, de la commedia dell'arte, de la comédie improvisée, et, mais en même temps structurée, parce que Cicognini est un auteur qui rédige, et qui est alors un énorme succès en Italie. On sait que plusieurs de ses pièces sont portées en musique, en opéra, par Francesco Lucio, par Cesti, enfin des plus grands compositeurs italiens d'Italie centrale de ce temps, et joué dans des dizaines ou des vingtaines de théâtres italiens, enfin de villes de la péninsule différentes. Et alors, Ciccognini a donné un sort particulier à son convive de pierre, Convitato di Pietra, et c'est de par Ciccognini que le thème va être connu à Paris.
Est-ce que parce que Ciccognini était plus baroque encore que les Espagnols ?
Non, je crois qu'il est plus, on dira au contraire, plus classique, plus structuré, parce que ce qui est caractéristique du théâtre d'or espagnol, c'est le foisonnement des œuvres Lope de Vega, Calderón, sont auteurs chacun de plusieurs centaines de petites pièces de théâtre qui s'appellent Auto Sacramental, alors que Ciccognini a, je dirais, une dizaine d'œuvres rédigées. Il est certain qu'il y a un effet spectaculaire, effrayant, dans le cas de la statue animée, qui est lié à la partie de Merveilleux, qui fait partie intégrante de la Commedia dell'arte. Et il y avait une grande intervention de machinerie. Et le festin de Pierre avec le commandeur, la statue qui vient dîner.
Et qui vient parler.
Et puis qui vient parler, manger. Et puis ensuite, qui entraîne à la fin Don Juan aux enfers. Cette statue est accompagnée, souvent une statue équestre, est descendue d'un piédestal, encore plus spectaculaire. Et puis elle va disparaître en entraînant Don Juan aux enfers dans une trappe d'où s'échappent des fumées et des flammes. Et on sait, d'après les recettes, enfin par des indications théâtrales, que les comédiens disposent à ce moment-là d'encens, de poudre de pois sèche qui font brûler pour donner cet effet.
Il y avait une odeur
de fantasmagorie. Oui, et un effet de machinerie qui était certainement ce qui attirait le plus l'attention populaire. Et qui fait que, donc, la comédie italienne à Paris, en 1658-1659, va mettre à la mode ce thème. On le voit alors avec des dramaturges de second rang, on dira, qui sont appelés Nicolas Dorimont, Jean de Villiers, et qui, à l'hôtel de Bourgogne ou au théâtre du Petit Bourbon, où il cohabite avec des troupes, on dira classiques, françaises, en tout cas par exemple avec la troupe de Molière, mettre ce répertoire imité de Ciccognini.
Et alors, ce qui est toujours très étonnant, c'est de constater le nombre d'auteurs qui, depuis 4 siècles, se sont penchés sur Don Juan. Il y a plus de 3000 auteurs, écrivains, artistes et musiciens qui sont inspirés. Comment pouvez-vous expliquer cette fascination ?
Ce n'est plus dans cette postérité l'intervention fantasmagorique du commandeur qui est le moment attendu essentiel. C'est le personnage cynique, extraordinaire, bouleversant, charmant, séducteur, trompeur, odieux de Don Juan qui lui fascine. Alors qu'on peut imaginer que dans le succès des années 1640-50, les aspects donc de machinerie, de jeu de scène, avaient une importance plus grande que nous le pensons.
Mais dans le fond, le Don Juan de Molière, c'est la seule pièce dans laquelle Molière est fait venir une machinerie et le fantastique. Parce que dans ses autres pièces, il y avait beaucoup plus de bon sens.
Mais là, il se conforme à un texte, enfin tout au moins un scénario, que le public parisien connaît.
Qui, depuis cinq ou six années,
est joué constamment et que par conséquent, on attend et qui va continuer puisque au-delà de 1665, Thomas Corneille va faire un autre Don Juan en 1677 qui, je crois, a eu plus de succès, plus de répétitions au cours du XVIIIe siècle que celui de Molière. C'est ce que disent les historiens du théâtre.
Donc ce personnage de Don Juan est important, mais c'est le mythe du sacré, le mythe du surnaturel qui est peut-être, ou du fantastique, qui est peut-être le véritable personnage porteur.
Enfin, qui a fait son succès immédiat dans l'Italie des années 1640 et à Paris dans les années 1650-60. On remarquera que Molière n'insiste pas tellement, d'ailleurs c'est dans les dernières répliques, si on peut dire que le spectre, on dit pas la statue, mais le spectre, c'est le terme qu'emploie Molière, intervient son rôle n'a pas, si vous voulez, le caractère tragique, extraordinaire, fabuleux, spectaculaire, effrayant qu'il a dans le théâtre baroque.
Oui, c'est dans l'acte 5, la scène 2, que Don Juan, voyant la statue mouvante, dit quelque chose que je ne comprends pas. C'est tout. C'est la seule façon qu'il ait de l'exprimer.
Oui, et puis dans la distribution des rôles, on nous dit c'est un spectre.
Pierre Brunel est avec nous devant les micros de Canal Academy pour parler de Don Juan. Critique littéraire, professeur honoraire à la Sorbonne, directeur des cours de civilisation française de la Sorbonne, spécialiste réputé internationalement sur les mythes littéraires et la littérature comparée, président du Collège de la littérature comparée qu'il a fondé en 1995, auteur de nombreux travaux sur Shakespeare, Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo, Claudel, Butor et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Pierre Brunel est aussi le directeur du Dictionnaire de Don Juan, un ouvrage de plus de 1000 pages réunissant une centaine de spécialistes. Ce dictionnaire dresse le catalogue de toutes les réincarnations de Don Juan. On y trouve bien entendu les Don Juan canoniques de Molière, Mozart, Byron, Pushkin, Shaw, Kierkegaard, Strauss ou Monterland, mais aussi les auteurs moins connus. Ils ne sont pas négligés, je pense à Anna de Noailles, Suarez, Roger Vaillant. On trouve aussi des articles de synthèse qui retracent la carrière de Don Juan dans tel ou tel pays, la Bohème, la Scandinavie, parce que Don Juan, finalement, est de tous les pays de l'Occident. Font également l'objet d'articles les compagnons de Don Juan, ses comparses, ses victimes, Anna, Elvire, Ottavio. Bonjour Pierre Brunel. Nous avons le plaisir de vous recevoir, vous, le maître d'œuvre du dictionnaire de Don Juan. Pourquoi ce dictionnaire? Pourquoi le dictionnaire de Don Juan et non des Don Juan? Et pourquoi plus de 1000 pages en papier Bible?
Je pense que, dans ce que vous venez de dire, le mot « international » est important, car Don Juan est un sujet international, donc il ne peut qu'intéresser un comparatiste et des amoureux de la littérature comparée. Et d'autre part, Don Juan est un sujet multiple par ses aspects, multiple par ses aventures, multiple par les œuvres qu'il a suscitées, par les auteurs qui se sont intéressés à lui. Et c'est presque naturellement que ça prend la forme d'une liste, d'un catalogue, et finalement d'un dictionnaire.
Liste.
Je passe de la lista du Don Giovanni de Mozart à ce dictionnaire que nous avons modestement ou immodestement tenté de réaliser.
Mais tout de même, quel parcours, Pierre Brunel, quel chemin précisément vous ont incité à réaliser cette somme sur ce personnage, à l'origine de tout?
Alors à l'origine de tout, je dirais que c'est l'enseignement, car c'est un sujet auquel je ne m'étais pas intéressé au cours de mes études. Mais quand j'ai eu pour la première fois un cours de licence à faire, j'étais à ce moment-là à l'université de Picardie, qui venait d'ailleurs à peu près de naître en 1968, à la rentrée 1968. J'ai eu l'idée de mettre cette question, je dirais classique, au programme. Elle m'a beaucoup intéressé et je me suis rendu compte qu'elle intéressait beaucoup les étudiants.
Et alors justement, qu'est-ce qui vous attire tant dans cette figure mythique?
Et qu'est-ce qui nous attire tous tant dans cette figure mythique?
Alors peut-être avant la figure mythique, je dirais que ce qui nous intéresse, puisqu'on parlait d'une expérience pédagogique, c'est la qualité des œuvres qu'elle a suscitées très tôt. Hein, les premières grandes œuvres du XVIIe qui lui sont consacrées...
C'était des chefs-d'œuvre,
sont
déjà.
Des chefs-d'œuvre, déjà. Le Don Giovanni de Mozart passe à juste titre pour un des chefs-d'œuvre absolus en matière de musique lyrique. Donc, ça a quelque chose de gratifiant. Et puis, bien sûr, par la multiplicité qu'il représente, Don Juan a quelque chose d'énigmatique. Non seulement il nous pose un problème, mais il a quelque chose de mystérieux. Il sollicite notre esprit, il sollicite notre imagination. Pas seulement celle des écrivains, voilà, mais tout aussi bien celle des lecteurs, ou pourquoi pas celle de ceux que la plume brusquement démange, qui ont envie d'écrire.
Et pourquoi plus de 1000 pages?
Parce que je crois que le sujet mérite bien ça en raison du grand nombre d'auteurs et du grand nombre d'œuvres. Le chiffre clé dans l'aventure de Don Juan à cause du catalogue dans l'opéra de Mozart, c'est 1000 et trait, 1000 et 3, ce qui veut dire finalement,
et encore.
Etc. Et encore, on n'en a jamais fini. Et je crois que vous-même m'avez dit que c'était autour de 3000 qui ont pu être recensés.
Autour de 3000.
Et moi, je dirais 3003. Il faut certainement un etc. quelque part. Donc, comment essayer, sinon, de faire le tour de tout ceci, du moins d'essayer d'en rassembler l'essentiel, sinon sous la forme d'un dictionnaire? Ça a, à mon avis, quelque chose de naturel.
Justement, la question qui vient tout de suite à l'esprit, comment avez-vous pu ordonner tout ça?
Alors, j'ai eu la chance de bénéficier d'abord d'une expérience. C'était le troisième dictionnaire collectif dont j'assurais la coordination. Il y avait eu avant le dictionnaire des mythes littéraires aux éditions du Rocher en 1988, et puis presque immédiatement avant, le dictionnaire des mythes contemporains chez le même éditeur. J'avais donc la chance d'avoir des étudiants ou d'anciens étudiants ou des collègues ou des collaborateurs qui n'étaient pas nécessairement tous universitaires, qui aimaient ce genre de travail et qui, je dois dire, ont été très très heureux de travailler à cette entreprise qui ne nous a pas pris aussi longtemps qu'on pourrait le penser. Moi, je dirais que c'est en 2 ans à peu près que ce dictionnaire a été réalisé, le plus difficile étant comme toujours la phase finale.
Quelques noms de vos collaborateurs et collaboratrices?
Alors, quelques noms. Écoutez, en refeuilletant le dictionnaire ce matin pour préparer cette émission, je suis allé regarder par exemple du côté d'un écrivain auquel je suis très très attaché, Georg Trakl, un écrivain autrichien du début du XXe siècle, qui est mort autant que je me souvienne en 1913, et il a écrit un texte qui s'intitule « La mort de Don Juan ». Et brusquement, je me pose la question ce matin, je me dis « Était-il bien dans le dictionnaire ?» Je regarde dans le dictionnaire, je m'aperçois que bien sûr il y est, il a une notice relativement longue, telle qu'il la mérite, et elle est signée de Jean-Yves Masson, qui est actuellement mon successeur comme directeur du Centre de recherche en littérature comparée de la Sorbonne, qui est non seulement un des plus brillants comparatistes d'aujourd'hui, mais un écrivain, l'actuel président de la Maison des écrivains. Je me dis, le choix était quand même
judicieux
à un moment où Jean-Yves Masson n'était pas connu comme il l'est aujourd'hui.
Judicieux, voilà. Et porteur. L'une de vos collaboratrices, Micheline Sauvage.
Micheline Sauvage est très présente dans le dictionnaire comme référence, et puisque vous me posiez cette question tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose que je dois ajouter dans ce qui m'a attiré vers ce sujet, Don Juan, et certainement dans l'enseignement que j'ai donné dès mes débuts, son livre « Le cas Don Juan », publié en 1953 dans la collection Pierre Vive aux éditions du Seuil, a été véritablement une initiation, et mieux qu'une initiation. Vous savez, c'était une époque véritablement faste pour les éditions du Seuil, car à peu près à la même époque, d'autres essais de première importance ont été publiés. Je pense aux Poésies et profondeurs de Jean-Pierre Richard, par exemple, ou je pense au livre de Claude Edmond de Magny, Histoire du roman français, Les sandales d'Empédocle. Il venait souvent, c'était le cas de Micheline Sauvage, c'était le cas de Claude Edmond de Magny, de la philosophie. Micheline Sauvage était agrégée de philosophie. Et ses livres, ses essais, qui était nourri de réflexions philosophiques, mais en même temps qui était extrêmement riche d'exemples, était pour quelqu'un qui voulait réfléchir sur la littérature des instruments de travail véritablement extraordinaires. Car on n'était pas gêné par une érudition en délire, on n'était pas non plus gêné par une abstraction pure. Il y avait une admirable conciliation des deux choses. Micheline Sauvage, je pense que c'est l'occasion de lui rendre hommage. Elle est décédée il y a peu de temps. C'est dans le même faire-part du Monde, autant que je me souvienne, que j'ai découvert sa disparition, immédiatement à la suite du faire-part de la disparition de Jacqueline de Romilly. Et comme j'avais été des élèves passionnés de Jacqueline de Romilly, et comme je l'ai connue jusqu'à la fin de sa vie, c'était pour moi très émouvant de voir ces deux grandes admirations de mon esprit réunis dans cette douloureuse disparition.
Eh bien, écoutez, nous dédions à ces deux grands esprits féminins qui viennent de nous quitter cette belle émission autour de Don Juan. Quel accueil ce dictionnaire de Don Juan, Pierre Brunel, a-t-il reçu auprès des spécialistes et puis aussi auprès du public?
Il y a un compte-rendu qui m'a spécialement touché et que je n'ai pas pris pour moi-même, c'est sûr. D'abord, un ouvrage collectif, c'est véritablement une œuvre collective. C'est un article de Georges Semproun dans le Journal du Dimanche, autant que je me souvienne, très peu de temps après la publication du dictionnaire, où il le saluait comme un chef-d'œuvre. Et j'avoue que venant de Georges Semproun et venant de mieux qu'un connaisseur de l'Espagne, c'était pour moi une source de joie.
Ne devriez-vous pas continuer le chef-d'œuvre, le remettre à jour, parce qu'un dictionnaire, c'est jamais fini?
Alors, je le pense. 10 ans après, ce dictionnaire date de 1999. Il faudrait le reprendre. Il y a certainement toujours des choses à corriger. Et surtout, il y aurait des ajouts à faire. L'année dernière, en 2009, a été publié un essai important sur Don Juan d'un auteur qui est beaucoup plus connu comme romancier, puisqu'il a même obtenu le prix Goncourt pour son roman « Les égarés ». Frédéric Tristan, ce livre s'intitule « Don Juan le révolté, un mythe contemporain », publié aux éditions Écriture. C'est un livre très intéressant, avec une démarche originale, où évidemment il veut penser Don Juan comme un mythe contemporain. C'est le sous-titre de son ouvrage, sans s'imposer ce que nous avons essayé de faire, nous, une vision à travers les siècles et à travers les pays. Et il est hors de doute que si nous faisions une nouvelle version de ce livre aujourd'hui, non seulement il serait présent dans la préface, mais il y aurait une notice importante sur Frédéric Tristan. Il faudrait d'ailleurs faire la recherche, que je n'ai pas faite, de personnages donjuanesques dans son œuvre romanesque même. Car s'il en est venu à écrire cet essai, ce n'est pas seulement par une idée d'un instant.
Pierre Brunel, après cette somme de travail contenu dans ce dictionnaire de Don Juan, si on devait faire une synthèse avec maintenant le décalage horaire, qu'est-ce que ce travail vous a apporté sur un plan personnel? Avez-vous fait une grande découverte en compagnonnant auprès de ce Don Juan?
Alors, je prévoyais l'importance du sujet dans l'ordre du nombre. Je savais que les Don Juan étaient multiples, comme Don Juan est multiple lui-même. Mais jamais je n'aurais imaginé, avant d'entreprendre ce travail, qu'il pouvait y en avoir tant et tant d'importants, surtout. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Et puis, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'évolution du personnage et, plus largement, parce que finalement, c'est plus important, l'évolution du mythe. Quand on traite ce sujet de manière classique, dans le cadre d'un cours de licence, comme je le disais au point de départ, on s'en tient à quelques œuvres qui sont très marquantes, très reconnues. Roland de Séville de Tirso de Molina, le Don Juan de Molière, le Don Juan de Lénao, le Convive de Pierre de Pouchkine. Mais on ne va pas jusqu'à des œuvres plus récentes ou plus tardives dans le 19e siècle, où l'évolution du personnage est considérable, puisqu'on évolue d'un Don Juan châtié vers un Don Juan qui peut même être un Don Juan sauvé. Un Don Juan qui non seulement éprouve des remords, non seulement...
Mais qui rencontre le grand amour.
Qui rencontre le grand amour et même qui rencontre la foi. Alors là, c'est quelque chose d'essentiel, je dirais, peut-être mal connu du grand public, même si ça n'a rien d'une révélation. Il y a un moment dans l'histoire de la littérature, donc dans l'histoire du mythe de Don Juan, où une évolution se dessine de ce qu'on peut appeler, ce sont les appellations qui sont utilisées dans ce livre, où on passe du Don Juan Tenorio au Don Juan Magnara ou Maragna, puisque les deux formules existent. Le Don Juan Tenorio, c'est grosso modo le Don Juan de Tirso de Molina, le premier Don Juan, donc ce personnage de séducteur, de trompeur, qui multiplie les aventures et qui finit par se heurter au commandeur et par être entraîné dans la mort et aux enfers. Hein. Et au contraire, le Don Juan Maragna ou Magnara, c'est un Don Juan qui tend vers le salut, c'est un Don Juan qui connaît une mutation, une sorte de conversion à laquelle l'amour pour une femme n'est pas étranger, bien sûr. Et il est facile de montrer qu'il y a une sorte de collusion qui se fait entre un personnage mythique, imaginaire, ce Don Juan de Tirso de Molina, et un personnage qui, lui, est un personnage historique, Miguel de Magnara, un personnage de la fin du XVIIe siècle, qui a vécu en Espagne, et qui a, comme cela, connu une conversion brutale, qui est passée de l'état de pêcheur à l'état de repenti. Alors, ça aboutit à des œuvres qui sont des Don Juan tendant vers le salut, quelquefois interrompus dans leur évolution. Et ça aboutit aussi à une œuvre dramatique importante du début du XXe siècle qui porte le titre, elle, de Michel de Bagnara. C'est de l'écrivain de langue française, mais d'origine lituanienne, Miloš, qui va jusqu'au bout, finalement. Hein. Il va jusqu'au bout parce que, finalement, c'est le Bagnara, pour lui, qui l'emporte sur le Tenorio.
L'image est plus positive, alors.
Voilà. Il se trouve que j'ai un de mes candidats au doctorat, il y a 7 ans exactement, il m'a téléphoné il y a 2 jours, qui a consacré une thèse magnifique à ce sujet, dont le résultat a déjà été publié en Espagne, 2 magnifiques volumes publiés à Séville, et il m'annonçait que la version française, donc la version première, va être publiée très prochainement aux éditions Garnier. Je crois me rappeler le titre qui a été donné au livre tel qu'il va paraître, Le Don Juan malgré lui, ce que je trouve très très beau comme titre. Il s'appelle Olivier Pifetot et c'est une œuvre considérable.
Donc incontestablement, Pierre Brunel, une source espagnole à la vie de Don Juan.
Alors c'est indéniable. Et en même temps, c'est curieux parce que l'Espagne ne suffit pas à contenir Don Juan. Si vous reprenez le Don Juan de Molière, vous vous apercevez que ça se passe en Sicile. Mais le premier Don Juan connu est celui qui impose le personnage, le sujet et déjà le mythe, c'est l'abuseur de Séville, El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, un écrivain qui porte ce nom d'écrivain, mais qui en réalité était un homme d'église, le frère Gabriel Téliez. Et cette œuvre, qu'il est très difficile de dater parce qu'elle a été jouée avant d'être publiée, j'imagine, grosso modo, hein, qu'elle a dû être représentée à peu près vers 1620 et elle a été publiée vers 1630, cette œuvre a imposé véritablement le sujet, le personnage, sa marque et l'esprit dans lequel elle était conçue, c'est-à-dire que ce Don Juan était un Don Juan en contravention avec les règles de la religion, donc un Don Juan qui devait être puni et un Don Juan qui finalement est châtié par la main du commandeur et va être précipité en enfer.
Retrouvons encore une fois toute la séduction des personnages du Don Juan ou le festin de Pierre de Molière dans une mise en scène et une interprétation de Daniel Mesquiche.
Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein, et de m'aider vous-même à faire le choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer.
Daniel Mesquiche compte à son actif plus d'une 100aine de mises en scène pour le théâtre, 15aine pour l'opéra, en France, à l'étranger, Bruxelles, Prague, Moscou, Budapest, Leipzig, Séoul, Brazzaville, etc. Il a été l'acteur d'une 40aine de films pour le cinéma, la télévision. On lui a confié de hautes responsabilités, dont la direction de 2 équipements nationaux, le Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et le Théâtre National de Lille. Il a occupé la cour d'honneur du Festival d'Avignon en 81 et les plus grandes scènes françaises et étrangères, Comédie française, Théâtre de Chaillot, Opéra de Pékin. Par décret du 30 octobre 2007, Daniel Mesquiche a été nommé directeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Daniel Mesquiche, bonjour. Pour vous inviter à évoquer le Don Juan de Molière que vous avez incarné, que vous avez mis en scène, je me permettrai de vous lire. Je crois que c'est le meilleur moyen d'aborder votre Don Juan. On vous a posé la question. Encore Don Juan ? Vous avez répondu, je n'ai pas choisi de mettre en scène Don Juan. Sachez-le. Spectateurs du théâtre, nos alliés, nous autres, acteurs de théâtre, prenons tous les jours le petit déjeuner avec Eschyle, Calderon, Tchekhov. Nous déjeunons tous les jours avec Molière, Racine ou Claudel, Shakespeare, Marivaux. Ils sont nos amis, nos intimes. Nous ne les quittons jamais et nous les fréquentons 1000 fois plus que nos boulangers, percepteurs, chauffeurs de taxi, etc. ou autres amis. Et nous montons, nous démontons, nous tissons, nous détissons leurs textes. Toutes nos vies, de temps à autre, quand le sérieux argent nous le permet, nous plongeons presque au hasard dans l'océan du sens et des lettres. Nous en rapportons une goutte et nous posons un titre sur une affiche. Alors, vous avez posé un titre sur une affiche, celle du Don Juan de Molière. Pourquoi Molière? Pourquoi pas un autre auteur qui ait aussi donné de sa vie, de son étude, de sa réflexion, de son amour à ce grand mythe de Don Juan, Daniel Mesquiche?
Eh bien, justement, dans le petit extrait de réponse que vous avez eu la gentillesse de lire, ma chère Virginia, je réponds en quelque sorte en disant que ce n'est pas spécialement Don Juan que je mets en scène, mais je mets en scène du texte ancien, du texte d'abord, et puis du texte ancien en l'occurrence, parce qu'il est bon qu'il y ait, me semble-t-il, en tout cas de temps à autre, un décalage entre notre époque et l'époque de la production d'un texte, ne serait-ce que parce que de temps à autre, il faut se reculer, prendre de la distance entre le texte et soi, pour mieux lire le texte, et peut-être pour mieux nous lire nous-mêmes, enfin, lire soi-même. Je veux dire par là que j'imagine que Michel-Ange, quand il peignait le plafond de la chapelle Sixtine, de temps en temps descendait de son échelle et regardait ce que ça donnait. Sinon, il aurait fait un gros nez à l'un, une petite main à l'autre, etc., etc. Et il faut bien prendre du recul pour mieux voir. Je pense que pour mieux voir notre époque, parce que le théâtre ne sert qu'à ça, le théâtre ne sert qu'à se voir soi-même, non pas au sens narcissique du terme, mais au sens où on se verrait autre, on se verrait là où on ne se voit jamais, comme on ne se voit jamais. Eh bien, le théâtre a besoin de prendre de l'élan, du recul, de la distance, et effectivement, c'est en plongeant dans l'océan des textes anciens qu'il peut le faire. Voilà. Alors, Don Juan, précisément, eh bien, ça fait partie des très grands thèmes de la littérature mondiale, pas que française. En l'occurrence, j'ai pris le texte de Molière parce que, justement, je suis français, enfin, je suis de langue française en tout cas, et je me sentais plus d'accointance avec ça, mais j'aurais pu effectivement travailler d'autres textes, bien entendu. Je dis bien texte, c'est-à-dire que ce sont bien les textes qui m'intéressent, c'est le degré d'écriture, si j'ose dire. Écriture ne veut pas dire style, hein. Écriture veut dire écriture, avec tout ce que ça remporte. Et je pense que le Don Juan de Molière, même si on le sait, mais ce savoir-là compte pour du beurre, on le sait, il a été écrit à toute vitesse, il a été écrit en une semaine, enfin, hein. C'était une vague adaptation d'une pièce qui se jouait d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de droit d'auteur et de choses protégées, et donc tout le monde piquait à tout le monde. Et il y avait une pièce qui se jouait, qui avait du succès, et Molière l'a prise et puis l'a arrangée un petit peu, et hop, c'était son texte. Il aurait été très étonné si on lui avait dit que ce truc fait sur un coin de table à toute vitesse. Parce
c'était
que,
un futur chef-d'œuvre.
Voilà, parce que Tartuffe était interdit, qu'il fallait vite donner quelque chose à manger à ses acteurs, alors il a fait Don Juan, qui est une façon d'ailleurs trouble de compenser. C'est-à-dire que Tartuffe était interdit, très bien, il faisait un autre texte donc qui, en principe, aurait dû ne pas être interdit, mais il était encore pire, celui-là. Et puis voilà, il aurait donc été effectivement bien étonné si on lui avait dit, mais aujourd'hui, il y a des émissions en ce moment même sur ce
tous
texte.
Tous les jeunes collégiens connaissent.
Voilà. Mais je pense qu'il en est de ce texte comme de tous les grands textes, c'est-à-dire ce sont des textes indécidables. Si vous rencontrez jamais quelqu'un qui vous dira « Don Juan c'est ci, Don Juan c'est ça », c'est un menteur. C'est un menteur ou au pire un idiot. Il vaut mieux être menteur qu'idiot.
Et ce décalage dont vous nous parliez il y a un instant, ces lunettes de contemporain que vous chaussez pour nous faire revisiter ces textes, mais avec nos mots, nos sensations d'hommes et de femmes en 2011 aujourd'hui. Quand est-ce que ces décalages s'imposent à vous? Quand est-ce que ces images s'imposent à vous? Comment est-ce que s'opère ce travail? Et racontez-nous ce décalage que vous avez opéré avec votre Don Juan.
Moi, je ne m'y fais pas. Je veux dire par là que ça se fait. On monte des textes anciens, de moins en moins d'ailleurs en France. La France était une exception. Quand je voyageais dans d'autres pays, on me disait « qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « théâtre ? Quel genre de théâtre ?» Alors je disais « qu'est-ce que vous montez ?» Alors je disais ben, « je monte Hamlet, je monte Andromaque. »« Ah, vous êtes un metteur en scène classique. » Or, je passais pour être un horrible iconoclaste en France. Donc je disais « non, 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 je crois que je suis, comme on dit, moderne. » Enfin. Tous ces mots sont pipés, bien sûr, mais bon. Enfin, d'autre part, je suis un moderne qui monte des textes anciens. Et on me disait, non, ça c'est pas possible. Enfin, si vous montez Andromaque, c'est que vous montez Andromaque, et puis c'est tout. Voilà, il n'y avait pas cet écart dans d'autres pays, souvent. Et la France est en train de rejoindre ces autres pays. C'est-à-dire, de moins en moins, cette chose existe. D'abord, on monte de moins en moins de classiques, tout simplement. Prenez Pariscope pour la région de Paris, mais prenez Pariscope et vous allez voir, il y a 390 pièces contemporaines et deux ou trois classiques, et encore, en général, c'est de la comédie française. Le théâtre, ça veut dire le lieu où l'on voit, mais où l'on voit quoi? Non pas la bouteille qui est devant moi en ce moment. Tout le monde peut voir ça, on n'a pas besoin d'un théâtre pour ça. Où l'on voit l'invisible, où l'on voit l'innommable, où on voit l'impensable, l'irreprésentable. Et c'est pour ça qu'on a fait des théâtres, c'est pour voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Or, aujourd'hui, la tendance, comme on dit, est plutôt à voir ce qu'on voit.
Rester au premier degré.
Voilà, rester au premier degré. Mais donc, je disais que je ne m'y faisais pas, parce que même si ça s'est beaucoup fait, monter des classiques, après tout, là, je parle d'aujourd'hui, de vraiment la période extrêmement contemporaine. Mais il y a encore 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, tous les grands metteurs en scène, Planchon, Vitesse, Villard, Jouvet, ont tous été connus parce qu'ils, justement, montaient des classiques. Donc c'est une chose, malgré tout, qui existe. Or, moi, je ne m'y fais pas, je continue à ne pas m'y faire. J'en ai monté énormément, j'ai monté peut-être une centaine de textes, comme on dit, classiques. Mais je ne m'y fais pas, je trouve que c'est chaque fois un miracle. C'est chaque fois un miracle qu'un texte écrit par un saltimbanque du XVIIe siècle arrive devant moi comme ça et que je puisse le lire, le travailler, le donner à lire, le disséquer, le déconstruire, l'ouvrir, le faire fleurir, etc. Je trouve que c'est réellement un miracle. C'est un peu comme si je marchais sur une immense plage et que, contre toute attente, une bouteille arrivait à mes pieds et puis c'était le texte d'un naufragé. Enfin, il y a une chance sur un milliard pour qu'une telle chose m'arrive. Et bien voilà, ça m'arrive. Don Juan m'arrive, c'est absolument incroyable. Donc je trouve que c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que tous ces gens-là, ils écrivaient, certes pour leur propre époque, pour tout de suite, comme tout le monde, mais ils écrivaient aussi pour le présent, mais pour tous les présents, quel que soit le présent, même un présent qui aurait lieu 300 ans plus tard ou 400 ans plus tard. Et c'est ce qui se passe. Autrement dit, ils écrivaient pour nous. Ce serait un péché, de, si j'ose dire, de les laisser, de dire on s'en fiche.
Mais oui, parce que ce sont des cadeaux extraordinaires.
Mais voilà, exactement.
On peut dire la même chose d'un autre livre qui s'appelle La Bible.
On peut dire la même chose de tous les grands livres, bien sûr, de tous les grands livres. Et d'ailleurs, oui, comparons Don Juan et la Bible. Enfin, pas quant au thème ou quant au contenu, comme on dit, mais comparons ça. Il y a deux attitudes devant ces textes-là. Une première attitude qui est une attitude, alors là, je ne sais pas si elle est fondamentaliste, mais en tout cas, elle est très croyante, qui consiste à croire que c'est vrai ce qui est raconté là. Alors voilà, réellement, la mer Rouge s'est ouverte, réellement, je ne sais pas quoi.
À la virgule près, c'est comme ça.
Oui, c'est-à-dire que nous incarnons, en pensée, les personnages. Nous prenons les personnages pour des personnes. Ève était une dame, Adam était un monsieur, enfin voilà, etc.
Ils ont tous une histoire placée dans l'histoire.
Ça, c'est la première attitude. Et elle existe, cette attitude croyante, entre guillemets, enfin, qui a foi, qui est naïve d'une certaine manière, elle existe aussi devant les textes profanes, enfin, les textes comme Don Juan, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un monsieur qui s'appelle Don Juan, il y a vraiment un monsieur qui s'appelle Sganarelle, il y a vraiment une dame qui s'appelle Elvire, et puis alors ce monsieur a dit ça à cette dame, etc., etc. L'autre attitude, plus abstraite peut-être, plus difficile sans doute aussi, consiste à bien imaginer que tout cela, ce ne sont que des flux, des fluides, des forces, des faisceaux de forces qui sont en jeu, qui disent, alors je ne sais pas ce qu'elles disent, ces forces, elles disent l'inconscient, elles disent l'âme, elles disent quelque chose d'inattrapable, d'innommable, et qu'on les a trempées, ces forces, en quelque sorte, dans un bain d'analogie possible, et pour qu'elles chatoient, pour qu'elles nous... Elles semblent nous raconter des histoires de fantômes. Il y a un fantôme, mais on passe la main dans Don Juan, c'est facile, enfin, puisqu'il n'est pas un monsieur avec vraiment un corps. Et donc ça ressemblerait à des personnes, mais ce sont des personnages. Ne pas confondre les deux mots. Une personne n'est pas un personnage n'est pas une personne. Et donc on a moins foi, on ne dit pas c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Mais on entend au travail les lignes, les textes, le tressage du monde et des choses, l'inextricable du monde. Et c'est pour ça que c'est toujours à refaire. On n'a jamais dénoué le fil, bien sûr.
Parce que c'est l'inconscient.
On peut dire ça comme ça. Oui, oui, on pourrait dire ça comme ça. J'aime pas trop dire l'inconscient, d'abord parce que je me sens pas si autorisé à le dire, je ne suis pas psychanalyste.
On va dire
pas...
une forme d'inconscient.
Mais oui, l'inconscient, en tout cas quelque chose qu'on n'attrape pas comme ça, que la vie quotidienne nous empêche de voir, devant lequel elle nous rend aveugles, enfin, et sourds. Et pourtant, le théâtre est une machine, si j'ose dire, une machination peut-être humaine, pour qu'on soit un peu moins sourd, un peu moins aveugle devant ces choses-là.
Découvrons maintenant le monstre rutilant de la version comique du Don Juan de Brecht, mise en scène par Jean-Michel Vier, Pierre Val dans le rôle de Don Juan et Sylvain Catan dans celui de Sganarelle.
Eh ben, dis-moi ce que tu penses ou je te le permets. Eh bien, dans ce cas, je vous dirais franchement, monsieur, que cette façon-là, d'aimer de tous côtés, ben, c'est une chose affreuse. Quoi? Tu veux qu'on se lie à la première venue et qu'on n'ait plus Dieu pour aucun autre? La ridicule ambition de vouloir être fidèle. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Quand j'en justice à l'une et succombe à son charme, je ne suis pas tenu pour autant de faire injustice aux autres. Faut-il que celle qui a eu l'avantage d'être rencontrée la première dérobe à toutes les autres les justes prétentions qu'elles ont sur notre cœur? Je conserve des yeux pour apprécier les avantages des autres et je veux payer à chacune le tribut auquel la nature m'oblige. Ma chaise. Quel plaisir inexprimable d'inventer ces mille flatteries qui force le cœur d'une jeune beauté, de suivre de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. Quelle satisfaction de combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, pour une âme pudique qui a peine à rendre les armes, de forcer pied à pied les tendres résistances, de détruire les scrupules dont elle se fait un honneur, et de la mener doucement où nous voulons la faire venir.
Bonjour Jean-Michel Vier, merci de nous avoir rejoints au studio de Canal Academy. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Vous avez présenté le Don Juan de Bertolt Brecht cet hiver à Paris au Lucernaire et jusqu'au printemps, vous êtes avec votre troupe au Théâtre de l'Œuvre. Brecht travaille en 1953 à une adaptation du Don Juan de Molière. Il prend ses distances avec le mythe de Don Juan en désacralisant le personnage et en s'éloignant de l'aura romantique héritée du XIXe, c'est-à-dire celle d'un héros en quête d'absolu ou du rebelle faustien. Dans sa lecture de Molière, Brecht entend revenir à une version comique du personnage de Don Juan. Il infléchit le héros, lui ôte son prestige de séducteur chevaleresque, moins grand seigneur surtout, et plus méchant homme. Recours à la violence, à l'argent, au privilège de sa position, tout est bon pour posséder. Pour Brecht, Don Juan n'est pas un libre penseur, c'est un libre jouisseur. Jean-Michel Vier, pourquoi avez-vous choisi Brecht ?
Alors, pourquoi Brecht ? C'est pour moi une vision moderne du mythe de Don Juan. Je crois me rappeler une phrase de Blanchot qui parle de mythe de Don Juan comme un mythe de la possession, voire de l'accumulation, et qu'il représente la modernité.
Le consumérisme.
Oui, bon, c'est peut-être poussé un peu loin, mais disons de la possession, du pouvoir et de la possession. Et pourquoi Brecht ? Parce que, en fait, Don Juan peut être des milliers de choses, mais ça dépend à qui et quand on s'adresse pour raconter cette histoire. Sans doute, si on raconte Don Juan dans l'Iran d'aujourd'hui, il représente sans doute un personnage de la liberté, peut-être, face à la religion, sans doute. Mais je trouve que la vision de Brecht, qui est la vision d'un personnage qui n'est pas un personnage chevaleresque, qui est un personnage comique, c'est-à-dire dont il fait la satire, un personnage qui aime posséder, qui se soustrait aux exigences morales les plus simples, est pour moi une vision moderne du mythe, et aussi par son caractère comique. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage de Don Juan, chez Brecht, est un conquérant qui ne mérite pas spécialement l'admiration. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et le second aspect, c'est le fait de ne pas traiter seulement le personnage en lui-même, mais le fait qu'il reflète une société qui le réclame. Don Juan existe parce qu'on a besoin de lui ou parce qu'on a envie d'être séduit, ou on a envie d'être convaincu, ou on a envie d'être possédé. Et Brecht raconte l'histoire d'une collectivité, et pas seulement la victoire d'un homme, mais comment cette collectivité le réclame. Elle a besoin de lui d'une certaine manière.
Est-ce qu'on pourrait apposer au mot de Don Juan le libertin fier, bravant Dieu et le monde ?
Alors oui, ça c'est absolument pas la vision de Brecht. Pour Brecht, le personnage de Don Juan n'est pas un athée au sens progressiste du terme. C'est pas un héros de la liberté. C'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est-à-dire que, si je reviens au début, on peut raconter Don Juan comme un défenseur de la liberté si on est sous une dictature religieuse. Si on ne l'est pas, ça devient autre chose. Et là, je trouve que la vision de Brecht est très intelligente parce que, précisément, il prend chez Molière, il ne transforme pas certaines scènes. Par exemple, la scène du mendiant, ça reste un scandale. C'est-à-dire qu'il joue les esprits forts à bon compte. Avec quelqu'un qui est démuni de tout pouvoir, il joue avec lui comme avec une petite souris ou avec un animal. Mais c'est jouer l'esprit fort d'une manière assez basse, finalement. Si c'était un cardinal ou Blaise Pascal, peut-être qu'il aurait plus affaire à forte partie pour démontrer que la foi est sujette à la discussion. Non, là, il y a une espèce de respect. C'est ça que je trouve vraiment intéressant chez Brecht, c'est qu'il ne cherche pas à nous faire voir un athée qui est le héros de la liberté, mais précisément quelqu'un qui ne respecte pas les obligations des autres. Et lui, il ne combat pas la superstition en allant jouer avec le mendiant. Il joue avec les croyances de quelqu'un, comme il joue avec les désirs des uns, la crédulité des autres, quelque chose qui est la possession la plus large, pas seulement la possession sexuelle, mais la possession dans tous les sens du terme.
Il ne respecte rien.
Quel est son moteur ?
C'est la pulsion, sans doute. La pulsion, le désir personnel. Le désir de pouvoir, il en parle aussi comme d'une grande puissance sexuelle. Derrière le mythe, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir l'histoire collective qui est racontée. Et là, ce que peut-être j'ai vu avec Brecht, c'est qu'il racontait effectivement cette collectivité. Brecht a écrit son adaptation en 1953, donc il a écrit pour le Berliner Ensemble, avec la collaboration de Benno Besson, Elisabeth Hoppmann. Donc, mais il a véritablement été maître d'œuvre. Ça a été reconnu par Benno Besson très tard, même après sa mort. Donc la différence entre les deux écritures, il y a plusieurs modifications qui sont faites sur le fait de ramener la pièce de 5 à 4 actes. Il y a un rythme qui est impulsé dans chaque scène qui est beaucoup plus vif et plus sec. Sur le sens lui-même, sur les transformations opérées sur les personnages, il y a des personnages qui sont rajouter beaucoup de petits personnages du peuple qui sont comme un reflet des scènes et que j'ai transcrit dans la mise en scène par le cœur lui-même. Le personnage dans la langue, il y a probablement une brutalité, voire une vulgarité de Don Juan qui existe, qui est plus moderne en cela qu'il sait s'exprimer dans un langage fleuri, mais ce n'est pas forcément son langage naturel. Voilà, il y a une brutalité par rapport à la langue qui me paraît correspondre d'ailleurs de manière très moderne au personnage de pouvoir actuel. Oui, une brutalité qui passe seulement dans l'argot, mais qui est dans la manière de prendre la langue et de la chahuter. L'adaptation est intelligente dans le sens où elle ne massacre pas le texte de Molière, elle reste dans ses grands axes, parfois très proche du texte, mais en enlevant, je dirais, si ce n'est pas un crime de lèse-majesté, parfois les aspects un peu rhétoriques de certains personnages. Je pense à Don Carlos ou Don Alonso, où il y a un resserrement par rapport au sens qui me semble aussi intéressant parce qu'il y a quelque chose qui est plus vif et plus présent.
La joyeuse cruauté imaginée par Brecht se poursuit maintenant en compagnie des comédiens de la troupe de Jean-Michel Vier, la troupe Liba Théâtre.
Angélique. Angélique est la fille du commandeur a accepté d'assister à notre souper. Préparons-nous d'un cœur ferme à la rencontre. Ce sera une des satisfactions les plus glorieuses et les plus exquises de ma carrière.
Elle a accepté. Mais c'est elle au moins qui vous êtes, monsieur.
Elle l'apprendra de moi.
Quoi, vous avez séduit sa mère?
Oui.
Et tué son père? Monsieur, elle est la seule à pouvoir venger
un père mort.
Il est vrai.
Mais comme tu le penses, à bon droit irrité. Ah ! Triompher de tels obstacles presque surhumains. Forcer un cœur qui a de telles raisons de m'opposer une résistance me semble une tâche digne de moi.
Monsieur, jusqu'à présent, je n'ai jamais cessé de souhaiter votre salut. Mais ceci est bien pire que tout. Et le ciel ne souffrira pas la plus impie de toutes les provocations.
Va, le ciel n'est pas si exact que tu penses.
Canal Academy se penche sur le mythe de Don Juan en vous offrant une série d'émissions sous forme de trilogie. Cette première émission sur Don Juan au théâtre, la deuxième sur le Don Giovanni de Mozart, la troisième sur Don Juan et le cinéma et les femmes. Nous avons le plaisir de réunir devant les micros de Canal Academy Daniel Mesguich, Pierre Brunel, Jean-Michel Vier. Bonjour à tous. Pierre Brunel, revenons avec vous à la source du personnage de Don Juan, à son père fondateur Tirso de Molina. Pourquoi a-t-il inventé ce personnage et était-il lui-même un Don Juan ?
Alors, il n'était certainement pas un Don Juan ou alors un Don Juan rentré, puisque c'était un homme d'église. On pense, et je crois beaucoup à cette hypothèse, que cette pièce était une sorte de sermon dramatique. Donc, il s'agissait de mettre en garde les chrétiens contre le péché et contre la catastrophe à laquelle pouvait conduire le péché.
C'était une forme de propagande religieuse.
C'était une forme de propagande religieuse, oui.
Le Concile de Trente.
Et comme le théâtre était quelque chose de très populaire à l'époque, je veux dire destiné à un public populaire, des théâtres à ciel ouvert, on pouvait très bien imaginer l'effet d'un pareil spectacle sur le public de l'époque.
Alors, si nous nous référons au propos de notre académicien Yves-Marie Berset, qui nous a fait part de ses réflexions par rapport au mythe, lui ne le situe pas dans le contexte d'un mythe chrétien. Il le voit évoluer depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme dont Don Juan existe.
C'est-à-dire que la vengeance du mort, par exemple, qui est fondamentale dès ce premier Don Juan, est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et les aventures amoureuses d'un séducteur intempérant, aussi, dans la mythologie grecque, Zeus,
Thésée
et d'autres encore. Ce qui me semble plus caractéristique du moment où apparaît le bourlador de Séville de Tirso de Molina, c'est qu'il y a un conglomérat qui se forme. Et cette action, telle qu'elle se présente, ne peut pas se passer de l'élément chrétien, puisque, encore une fois, c'est une sorte de sermon mis en scène et c'est un péché que Don Juan expie.
Dès qu'on parle de Don Juan, c'est l'image du Casanova qui est avant tout parlante pour nos contemporains. Est-ce réducteur par rapport à ce personnage dont nous avons un peu ciblé toutes les différentes facettes ensemble ? Est-ce dommageable par rapport à cet archétype ?
Voilà, alors je crois que c'est d'une facilité qu'on se donne, hein, le rapprochement entre Don Juan et Casanova, et je ne suis pas le seul à penser qu'il y a une différence fondamentale entre eux. Don Juan est beaucoup plus l'homme du désir, Casanova est beaucoup plus l'homme du plaisir. Hein. Mon collègue et ami Camille Dumoulier a écrit un très beau livre qui s'intitule « Don Juan ou l'héroïsme du désir ». C'est tout à fait juste, mais Don Juan ne se roule pas dans le plaisir, alors que Casanova est tout à fait capable de prolonger une aventure amoureuse, de coucher plusieurs fois avec la même femme, d'essayer d'aller au bout d'un plaisir.
Et puis, chez Casanova, aucun dieu. Oui. Alors que chez Don Juan, dieu toutes les 5 secondes.
Et ça, dans toute la littérature sur Don Juan, il y a cette présence du sacré, cette notion de la divinité surplombant notre devenir humain.
Je dirais que le traitement du sujet est beaucoup plus frappant, beaucoup plus convaincant, si cette donnée demeure. Évidemment, on a toujours le droit de réduire, d'effacer, de laïciser, si vous voulez, le sujet, mais je pense quand même que c'est au dépend de l'intérêt de l'œuvre à ce moment-là.
Vous aussi, vous avez cette sensation, Jean-Michel Vier ?
Je ne sais pas. En tout cas, dans le Don Juan de Tirso, il se roule allègrement avec des prostituées. Enfin, ils sont dans une accumulation, une collection de leurs aventures dans des maisons closes. La notion de séduction, là, est prête à discussion. Il y a aussi une notion d'accumulation, tout simplement, en dehors de tout désir de conquête, je ne sais pas. Et en ce qui concerne l'aspect séculier ou bien le débat métaphysique, le fait qu'il y ait une présence permanente du mot Dieu, oui, bien sûr, mais on est dans une...
Il appelle ça le ciel, mais c'est...
Le ciel, oui. Le ciel... Bon, je suis peut-être un peu obsessionnel, mais l'adaptation en tout cas contemporaine de Brecht sur laquelle je me suis penché, je trouve est intéressante par rapport à ça, parce que précisément, il dit au fond, c'est pas un athée au sens progressiste du terme, puisque peut-être croit-il en Dieu, peut-être n'y croit-il pas, mais en tout cas, pour lui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, c'est une porte d'entrée aussi intéressante, parce qu'au lieu d'être sur la voie du débat métaphysique, c'est quelque chose qui peut éventuellement être une objection à son plaisir, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour lui. Voilà, je trouve que c'est aussi une piste possible.
Je connais mal la pièce de Brecht, mais vous avez dit adaptation, il a adapté ou il a en tout cas...
Il a adapté la pièce de Molière.
Celle de Molière.
Oui, il a adapté la pièce de Molière.
Alors, je ne veux pas juste de dire peut-être qu'il croit-il, peut-être qu'il n'y croit-il pas. Du point de vue d'un matérialiste historique comme Brecht, je peux comprendre. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, il a le droit d'être athée, mais peu importe, c'est malgré tout quelqu'un qui représente l'aristocratie qui s'effondre, un monde qui pourrit sur pied,
oui,
etc.
Oui.
C'est d'accord. Mais autrement, c'est fondamental. Il y croit. Enfin, il y croit. Il le défie sans arrêt, mais on ne défie que ce qu'on pense qui existe. Sinon, on ne défie rien du tout. Il y croit sans cesse, tout le long. Cet athée est un mystique, je le répète. Croire, il y a 1000 degrés. Mais enfin, on ne peut pas passer son temps à agir comme si c'était sous le regard de Dieu, que ce soit pour être magnifique, pour fendre les hypocrites, sauver un homme attaqué par 3 brigands, etc., etc. Comme quand il fait exprès de vouloir faire jurer un pauvre, enfin, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, au fond, de toujours ou le défier ou lui faire plaisir, si on croit qu'il n'est pas. Il faut bien qu'il soit pour qu'on fasse tout ça.
C'est la loi de cette société-là. C'est la loi de cette société-là, du 17e, qui est garantie par Dieu.
Ah oui, donc ça, c'est pas son Dieu à lui, c'est celui de la société dans laquelle,
oui,
il vit. Oui, on peut dire ça, d'accord. Il n'est pas athée n'importe comment. Il est athée comme seul un grand catholique peut l'être.
Pierre Brunel.
Au sujet du Don Juan de Tirso de Molina, je voudrais dire 2 choses. Alors, c'est vrai qu'il y a l'épisode avec le marquis de la Mota, où il retrouve ce vieux compagnon de débauche, et où il est question des ruelles où il fréquentait les prostituées. Mais on est au-delà de cette étape. Hein. Et dans la pièce telle qu'elle vous est présentée, ce qui est représenté n'est pas de cet ordre, que ce soit l'abandon de la pêcheuse Thisbé, que ce soit la relation avec Donna Anna, etc. Dans le catalogue mozartien, Don Juan chante que toute femme est bonne, hein, est bonne à prendre, hein, mais le dramaturge, il ne va pas aller chercher n'importe quelle prostituée. Et Zerline n'est pas n'importe qui.
Alors, Don Juan, les femmes.
Certes, effectivement, la source de l'histoire, c'est la profanation. Mais entre la profanation par rapport à une loi qui est sacrée et la transgression d'une loi ou d'une règle qui est peut-être sociale, évidemment, il y a un débat d'ordre métaphysique, mais le sens même de l'action est le même. Il se soustrait à une exigence morale, qu'on peut croire ou non divine, mais le sens de l'action est le même. Et c'est pour ça qu'il y a une correspondance. Pour cette interprétation plus moderne, je pense, de Brecht, le débat n'est pas avec Dieu, il est avec la loi.
Et alors, pour en revenir à l'interprétation la plus ancienne, en revanche, c'est-à-dire encore une fois à Tirso, on l'a souvent dit, et je crois à cela aussi, son Don Juan croit trop en Dieu. C'est-à-dire qu'il se croit trop protégé de Dieu. Et s'il en fait tant, s'il va au bout de ses audaces, c'est qu'il croit qu'il est absolument impossible.
À l'abri de toute punition surnaturelle.
Et c'est en cela qu'il se trompe. Il existe, autant que je me souvienne, dans le catalogue des œuvres de Tirso, une pièce où c'est le damné par manque de foi, et le bourlador de Séville serait le damné par excès de foi en ce sens-là. Il se croit trop protégé.
Est-ce que tous les pays occidentaux se sont emparés de Don Juan? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont eu des adaptations, des métamorphoses?
Bon, de manière inégale, mais je crois pratiquement tous. Hein. Et la circulation se fait d'Espagne en Italie, d'Italie en France. Molière, c'est pratiquement sûr, n'a pas eu accès au texte espagnol de Tirso de Molina. Ce qu'il a connu, c'était des spectacles italiens qui étaient montés à Paris. C'était par des troupes italiennes qui jouaient de la Commedia dell'arte ou qui jouaient des pièces déjà constituées. Et par rapport à l'original espagnol, déjà le scénario avait évolué.
D'où le fait que la scène se passe en Sicile.
D'où le fait que la scène se passe
en
Sicile.
En Espagne.
Absolument.
Chez Molière. Molière avait écrit donc cette pièce pour donner quelque chose à jouer à ses acteurs, à sa troupe, puisque Tartuffe venait d'être interdit. Et d'ailleurs, le texte lui-même est très instable, le texte de Molière, parce que, par exemple, dans toutes les éditions d'aujourd'hui, même encore, il y a des choses entre crochets, des choses qui se disaient, qui ne se disaient pas, qui se jouaient, qui ne se jouaient pas. Tout n'est pas sans doute de Molière. Certaines phrases ont été rajoutées par des acteurs de Molière, ou même des acteurs après coup. Pendant très longtemps, cette pièce n'a pas été aimée, d'ailleurs, du public français. On l'a trouvée trop brute, comme une espèce d'adaptation, effectivement, de pièces italiennes et pas très bien faite. Et c'est Thomas Corneille qui a réécrit Don Juan en alexandrin. D'ailleurs, elle est injustement décriée, cette pièce, parce que depuis que Jouvet, ou à peu près, a redécouvert le texte de Molière pour les scènes en France, la pièce de Thomas Corneille, du coup, est tombée à la poubelle. Enfin, on dit, bon, ben voilà, c'était une erreur pendant plus de 150 ans, mais c'est une blague. Le vrai, l'original, c'est celui de Molière. Et moi, je l'ai relue, celle de la pièce de Thomas Corneille, elle est pas mal du tout. Et justement, elle édulcore certaines choses, sans doute. D'abord, il y a un tour de force incroyable, c'est d'écrire réellement d'alexandrin exactement ce qui est écrit en prose. C'est absolument incroyable, quoi. Enfin, c'est une réussite stylistique formidable. D'autre part, je trouve qu'elle est très belle et qu'elle a de très très belles choses. Voilà, je referme la parenthèse sur Thomas Corneille, mais on l'oublie toujours, celui-là. Autrement, oui, la pièce, elle a été aussi tout à fait décriée par les dévots. D'abord parce qu'ils étaient eux-mêmes mis en scène et qu'ils en prenaient plein la tête, si j'ose dire. Mais aussi parce qu'on accusait Molière de travailler à l'envers. C'est-à-dire, soi-disant, c'était pour mieux montrer à quel point le méchant était puni. Mais en réalité, il a tellement d'aspects sympathiques. Le public est avec lui tout le temps. Il est progressiste, il est ouvert, il est courageux. Quand on attaque les frères d'Elvire, il est là, enfin, etc. Et qu'en fait, donc, c'est scandaleux. Moi, je dirais pas ce, ni l'un ni l'autre. Je pense que le texte de Molière est, comme tous les grands textes, troué de partout. Hamlet est troué partout. Il en manque des morceaux, si j'ose dire. On ne peut pas être sûr de ce que ça veut dire. Et comme on ne peut pas être sûr de ce que ça veut dire, c'est une terre d'accueil, pour nous, les lecteurs, pour nous, les acteurs, immense, magnifique. Parce qu'on peut entrer là-dedans et essayer de travailler. Moi, je dis toujours, en paraphrasant un grand philosophe, Emmanuel Lévinas, je dis toujours, il ne faut jamais se demander ce que veut dire un texte. Ça n'a aucun intérêt. D'abord, un texte ne veut rien dire, parce qu'un texte ne veut rien. Un texte, c'est un texte, c'est pas un homme. Il faut se demander ce que peut dire un texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire avec lui? Et même si on entend une chose impossible, très peu probable, eh bien, si on peut l'entendre, c'est que ce texte l'a dit, cette chose. Elle était dans le texte. Je ne l'ai pas dite en regardant la scène. Je l'ai dite, enfin, la scène, le fleuve. Je l'ai dite en lisant le texte. C'est ce texte qui avait dit ça, en quelque sorte. Je donne deux exemples, si vous voulez bien. Un premier exemple. Après une longue tirade de Don Juan sur la liberté en amour, masculine, il se tourne vers Sganarelle et lui dit « Qu'as-tu à dire là-dessus » Et Sganarelle répond « Ma foi, j'ai à dire, oh, je ne sais que dire, parce que... » voilà. Et donc on voit le lait un petit peu embêté, qui ne sait pas trop s'il a le droit de répondre, il ne sait même pas peut-être ordonner sa réponse, etc. On peut aussi entendre ça tout à fait autrement. « Qu'as-tu à dire là-dessus » dit Don Juan. Et Sganarelle lui répond en le regardant droit dans les yeux « Ma foi, j'ai à dire. » C'est possible, ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est ce qu'a voulu écrire Molière, je ne dis pas que c'est ça que ça veut dire plus qu'autre chose, je dis que c'est possible, simplement. Ou encore une fois, quand Elvire arrive en larmes en disant « c'est pas pour moi que je vous dis ça, mais si vous pouviez vous repentir, ce serait tellement bien, etc. etc. » Et elle pleure, elle est très émouvante, et Don Juan se retourne vers Sganarelle et lui dit « tu pleures, je pense ». Sous-entendu, sentimental comme je te connais, toi tu pleures, alors que moi j'ai un cœur de pierre, je ne pleure pas, etc. On peut l'entendre autrement. « Tu pleures, je pense ». Partage du monde. Toi, t'es celui qui pleure, moi, je suis celui qui pense. On a le droit. C'est possible. C'est dans le texte. Quoi qu'il en soit, c'est dans le texte. Et les grands textes, donc, permettent ça. Don Juan est un grand texte pour ça. Même sur la coloration des personnages. Don Juan. Je parle toujours uniquement de celui de Molière. Don Juan. On peut dire que c'est un athée. Jean Villard a joué la carte l'athéisme. Un athée qui parle du ciel sans arrêt. C'est un mystique, pour moi. Il est là pour dénier, comme la théologie négative. Il est là pour dire que ça n'existe pas, qu'on s'en fiche. Mais n'empêche qu'il parle sans arrêt du ciel. Il n'y a presque pas une réplique où il ne parle pas du ciel. Donc on va dire que c'est un athée et un mystique. Il aime les femmes, c'est indéniable. Il les drague toutes, partout. Il déteste les femmes, c'est indéniable aussi. Il est presque fasciste. À beaucoup de moments, avec le pauvre, avec Monsieur Dimanche, il l'humilie. Monsieur Dimanche est sûrement un juif. Monsieur Dimanche, d'abord, il s'appelle Dimanche, c'est un nom un peu trop chrétien et un peu rigolo, comme un clin d'œil. D'autre part, il ne mange pas ce que mange Don Juan. On peut l'humilier à loisir, parce que les juifs n'avaient pas le droit d'attaquer en justice un seigneur. Et il est usurier. Bon, vraiment, visiblement, c'est le juif. Et Don Juan s'en donne à cœur joie. C'est donc quelqu'un de pré-fasciste, on pourrait dire. Je ne veux pas faire des folies chronologiques, mais enfin, malgré tout. Mais on peut dire aussi que c'est un progressiste. Le moine bourru, ça n'a pas de sens. Il pourfend toute superstition. Enfin, et c'est un homme de progrès, etc., etc. Alors c'est quoi? C'est un mystique ou un athée? C'est un homme de progrès ou un fasciste? Il aime les femmes ou il n'aime pas les femmes, etc., etc. C'est indécidable. Chaque scène vient contredire l'autre. C'est pour ça que c'est un grand texte.
Même avec un auteur comme Brecht qui adapte le texte pour lui faire dire que Don Juan est un personnage condamnable, en même temps, il y a une relation de jubilation extrême qu'on retrouve entre le public et le personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est transgressif, qui provoque une joie de faire ce que tout le monde s'interdit. Et il y a un plaisir immense à le voir faire tout ce qui est interdit. Et dans cette adaptation que Brecht a faite, il s'évertue à condamner le personnage d'une certaine manière. Et il est effectivement, à beaucoup d'égards, il est condamnable. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher, même en voulant le mettre en scène de manière négative, à ce que malgré tout, il y ait une sympathie, il y a quelque chose qui se joue profondément, enfin quelque chose qui se vit...
Et l'inverse, si on veut le mettre en scène de manière sympathique, il y a quelque chose d'antipathique qui va sortir tout de suite.
Oui, c'est ça.
Il y a plusieurs Don Juan, c'est-à-dire il y a peut-être un archétype profondément, comme ça, un ur-Don Juan, enfin un Don Juan souche, sans doute. Et ça, c'est, on va dire, c'est l'homme, allez hop. Il y a Don Juan et Don Juan. Celui de Molière, par exemple, il rate tout ce qu'il fait, celui de Mozart, non. La bonté, non. Molière, il rate tout. Hein. Il épouse une fille, puis il part en courant. Il dit qu'il va enlever une jeune fiancée, puis finalement la barque chavire. Il dit qu'il voit Mathurine, même trop tard, il y a Charlotte, et après il y a les deux en même temps, il part en courant, enfin, etc. En fait, il touche jamais une femme, celui-là. Et pourtant, il s'appelle Don Juan.
À la fin du Don Juan de Molière, il ne reste plus en scène que Sganarelle. Et Sganarelle regrette essentiellement, c'est ce qui a été coupé, justement, c'est ce qui a fait scandale. Mes gages, ce que nous rétablissons aujourd'hui, à juste titre. À la fin du Don Giovanni de Mozart, les personnages se rassemblent pour un final joyeux parce qu'on est débarrassé du personnage dangereux, désagréable, malfaisant. Et je trouve que c'est très, très différent. Il y a une sorte de regret chez Sganarelle d'avoir perdu son maître, parce qu'un maître, ça sert quand même à quelque chose. Et puis au contraire, un sentiment de délivrance dans le final du Don Giovanni de Mozart. Et je pense que d'un siècle à l'autre, là, il y a une mutation qui s'opère. Alors peut-être aussi le fait que le texte authentique du Don Juan de Molière a quasiment disparu. C'est en 1841 seulement qu'on a rejoué le Don Juan de Molière dans sa version d'origine, si l'on peut dire, parce que comme vous l'avez fait observer tout à l'heure, Daniel Mesguich, il y a des variantes. On a retrouvé récemment, je crois, une version inconnue ou peu connue du Don Juan de Molière qui figure dans la nouvelle édition de la Pléiade du Théâtre de Molière qui est parue il y a quelques mois. Moi, il y a une chose qui me frappe dans cette fin de Don Juan et qui oblige à poser la question, c'est la main. La statue demande à Don Juan de lui donner la main. Et c'est un acte chevaleresque de la part de Don Juan. Comme il a sauvé quelqu'un au risque de perdre la vie, il donne la main qu'il pourrait refuser à la statue. Et c'est en saisissant la main de Don Juan que la statue l'entraîne dans le monde de la mort et en enfer.
Jean-Michel Vier.
Je crois que cette main vient de Tirso de Molina.
Oui, oui, oui.
Effectivement, le gage d'honneur donné à la femme qu'on va épouser, qui est une espèce de rétribution céleste, eh bien, donne-moi à nouveau à toi ta main. Une espèce d'œil pour œil, dent pour dent.
Voilà. Et imaginez qu'il ne donne pas la main, sa mort pourrait être pour le moins retardée.
On peut dire aussi que c'est un grand suicide chez Molière. Pourquoi Don Juan va-t-il en Sicile ? Où on ne peut pas aller facilement, c'est une île, hein, c'est entouré d'eau, à l'endroit précisément où il sait qu'il aura des problèmes, à l'endroit sans doute où il sait que les frères le retrouveront forcément, plus on ne peut pas s'échapper, et il va comme par hasard dans la forêt, à l'endroit où il a tué le commandeur, enfin, comment dire, tout est fait pour que ça se termine. Mais c'est Don Juan le premier qui y va, personne ne l'y oblige. Si nous sommes, comme il faut je crois l'être, devant une pièce de théâtre, comme des Sherlock Holmes, enfin des détectives, qui n'avons comme indice à nous mettre sous la dent, si j'ose dire, que ce qu'il se serait dit, c'est tout. Mais qui, il, à nous découvrir? Quand? Comment? Pourquoi? Même physiquement, on ne sait pas. Hermione, elle est brune, elle est blonde, elle est rousse, on ne sait pas. Elle est grande, elle est petite.
Que les
voilà.
Mots.
Voilà, il n'y a que ça. Et maintenant, donc ça s'appelle les dialogues au cinéma, et maintenant, inventons le scénario. C'est ça le théâtre. Mais non pas, il est déjà écrit. Tout est possible. Si je regarde uniquement les dialogues écrits par Molière, je peux affirmer que Don Juan jouit, dans un état de jouissance sexuelle, à la fin de la pièce. Il dit le feu me brûle, ça. Oui, alors, bien sûr, pas de problème. Je veux dire par là que ça reste ouvert, que c'est libre. Est-ce qu'on avait besoin d'une chose comme ça, pour mille raisons philosophiques, religieuses, psychanalytiques? Oui, oui, bien sûr, et ça c'est l'œuvre de chaque créateur. Et le mythe lui-même, sans doute, comporte sa fin. Mais non, parce qu'il n'y a aucun... On peut aussi dire qu'il n'y a aucun commandeur qui soit au même niveau que le personnage de Don Juan, qui lui-même n'est pas au même niveau qu'un spectateur. Il y a des degrés d'être, si j'ose dire. Je sais bien que être, c'est une chose absolue, c'est ou ce n'est pas, dans la vie courante. Mais on peut dire qu'un personnage est moyennement, qu'un spectateur est beaucoup dans la salle, qu'un spectre, quand le spectre d'Hamlet arrive sur les remparts, il est un peu moins, il est un peu moins, il est et il n'est pas, si j'ose dire, lui, en même temps. Il est disparu, il est mort, il n'est plus là. Mais pourtant, il est là. Que Hamlet lui-même, etc., etc., il y a des degrés. Eh bien, tous ces degrés-là sont dans une seule personne, qui est moi. Alors moi, pas moi Daniel, mais moi, le spectateur, ou moi l'acteur. Enfin, chacun des êtres réels vivant dans une salle de spectacle comporte, de manière incorporée, enfin, comporte sa statue du commandeur, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas quelqu'un, la statue du commandeur.
Pour Brecht, le commandeur, c'est le théâtre qui l'engloutit. C'est une machine de théâtre. Et si on prend son point de vue, dans un ordre social tel qu'il le décrit, il n'y a aucune puissance qui est capable d'arrêter le monstre rutilant qu'est Don Juan pour Brecht. Donc il n'y a que le théâtre, le Deus ex machina du théâtre, cette machine qui peut l'arrêter.
À ce propos, j'avais vu une mise en scène absolument magnifique de Pierre Constant, du Don Giovanni, hein, pas du Don Juan de Molière, magnifique. C'était Jean-Claude Malgoire qui dirigeait, qui avait commandé ce spectacle. À la fin, Don Juan s'approchait du rideau rouge, qu'on voyait massé de part et d'autre à Courage Jardin du théâtre, hein, bien sûr. Il s'approchait du rideau rouge comme ça, et puis d'un coup, il était entouré par ce rideau rouge. Le rideau partait, je ne sais pas comment ils ont fait ça, en biais. Donc c'est très difficile à faire hein, dans un théâtre à l'italienne, vous savez, les choses sont géométrales, enfin, ne peuvent pas partir comme ça. Le rideau partait en biais, au centre du plateau tout d'un coup, le rideau lui-même, avec Don Giovanni dedans, qui hurlait, qui chantait. Et puis, tout d'un coup, on voyait Don Giovanni à l'envers, pendu par les pieds, dans le rideau, qui s'enroulait comme ça, et tout ça disparaissait dans les cintres, enfin. Chanteur et rideau en même temps. Il était brûlé par le rideau rouge, par le rouge du rideau, enfin voilà, c'est magnifique.
Pierre Brunel.
Il y a une fin de Don Juan, moi, qui m'a beaucoup frappé, et qui est extraordinairement théâtrale, hein. C'est la fin du Don Juan de Monterland, connu aussi sous le titre « La mort qui fait le trottoir », où le masque de la mort se pose sur le visage de Don Juan et le possède, en quelque sorte. C'est une variante de la main de Pierre, c'est en tout cas la pierre qui le dévore et qui fait de lui un mort.
Alors, une question subversive, Don Juan pourrait-il être une femme ?
Je trouve que ce personnage est essentiellement masculin, peut-être même avec tout ce que ça peut comporter d'horrible. Que Don Juan soit une femme, non, je ne crois pas. Je pense que c'est même impossible. C'est,
pourquoi ?
C'est parce que ça ne veut pas rien dire, la différence sexuelle, et que c'est un texte d'homme qui met en scène un homme dans son rapport avec des femmes, et pas l'inverse. S'il y avait une Don Juan, elle serait très très différente de ce dont nous sommes en train de parler depuis tout à l'heure.
Pierre Brunel.
Mais je ne crois pas beaucoup, même pas du tout, à la figure de la Don Juan. Dire aussi que la tentation de faire de Don Juan un homosexuel ou de prêter à Don Juan une certaine homosexualité, c'est quelque chose qui a pu être envisagé. Il y a un exemple très nuancé, d'ailleurs, à cet égard, c'est la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, La nuit de Valognes, en 1991, où un jeune chevalier, frère d'Angélique, la femme qu'on oblige Don Juan à épouser, a une semi-relation passionnelle avec Don Juan sans que celui-ci aille jusqu'au bout de cette aventure. Voilà, mais c'est parce que des possibilités s'ouvrent et c'est une tentation permanente pour un dramaturge, comme je pense aussi pour un metteur en scène, de modifier, de jouer avec la donnée initiale, d'autant que cette donnée initiale est elle-même mouvante.
Qui est ouverte en plus, oui, bien sûr. Bien sûr.
Et vous, Jean-Michel Vier, vous pensez qu'il y a des Don Juan ?
Non, je suis du même point de vue, c'est-à-dire que la notion de conquête, peut-être à tort, mais en tout cas la notion de conquête, d'appropriation et de, peut-être d'agressivité.
Reste encore bien masculine.
De pouvoir, peut-être.
Il y a des femmes qui sont comme ça, mais dans ce cas-là, ce sont des hommes.
Oui, enfin, en tout cas, peut-être c'est un cliché, mais en tout cas, dans l'archétype de l'énergie, même mythologique, et il me semble que c'est une nouvelle transgression si on va vers un Don Juan.
Mais les archétypes sont là pour être transgressés, oui, non,
oui,
vous ne
bien
croyez
sûr,
pas
bien sûr.
Messieurs, merci,
merci
d'avoir si bien parlé de Don Juan. Merci.
Don Juan sera de nouveau parmi nous grâce à une deuxième émission sous les traits du Don Giovanni de Mozart.
Soyez au rendez-vous.